Province du Nord-Kivu, dans un communiqué publié ce week-end, l'état-major général des FARDC annonce la suspension des opérations militaires pour traquer les militaires indisciplinés. Selon l'état-major, la situation est sous contrôle dans le Massissi et une partie de Rutshuru. À ce jour, quelle est la situation sécuritaire et humanitaire au Nord-Kivu? Quelle solution pour une paix durable dans cette province? C'est le thème des dialogues entre Congolais de ce lundi 7 mai 2012. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Il est en ligne, monsieur le gouverneur. Bonsoir.
Oui, bonsoir, madame.
Thomas Dakar Missi, président de la société civile du Nord Kivu, également en ligne, monsieur Bitt Missi. Bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir aussi à tous les auditeurs de Radio
Ici, Jason Stern, analyste des questions liées à la sécurité. Il est directeur d'un projet de recherche dénommé Projet Osalama. Il est également en ligne, monsieur Jason. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Dupo de Bazi à Wamba dans la province orientale. C'est avec soulagement que nous avons suivi le communiqué de l'état-major général des FARDC marquant la fin des opérations militaires au Nord Kivu, qui convient éloquent de la puissance des feux de notre armée. Mais qu'en est-il de Bosco Taganda dont la position était encerclée? Il aura dit sa pro de Kingo Maniema à partir de cette suspension des opérations que nous découvrons que le gouvernement ne veut pas terminer ce problème d'insécurité à l'est de la RDC. Nous avons appris que nos militaires ont repoussé les insurgés et ils ont occupé les anciennes positions qui étaient sous contrôle de ces éléments. Pourquoi alors suspendre ces opérations au lieu d'en finir une fois pour toutes avec ces militaires soi-disant indisciplinés? Merci de nous suivre à Massissi au Nord Kivu sur la 96.0 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Province du Nord Kivu, les opérations pour traquer les militaires indisciplinés suspendues dans la province depuis la nuit du 4 au 5 mai dernier, l'annonce de l'état-major général des FARDC. Dans un communiqué déposé ce dimanche à Radio Okapi, l'état-major général indique que la situation militaire dans le secteur opérationnel de Massissi et une partie de Rutshuru est désormais sous contrôle. Les militaires indisciplinés qui avaient concentré leurs attaques contre les FARDC sont neutralisés. Le point depuis Goma, avec vous, Gisèle Cage.
Plusieurs localités dans le territoire de Massissi et une partie de Rutshuru qui a désormais été prise par les forces armées de la RDC. Les soldats loyalistes ont le contrôle de la situation, d'après un communiqué de l'état-major général de l'FARDC. C'est pour cette raison que les opérations de neutralisation des indisciplinés de l'armée sont suspendues depuis la nuit du 4 au 5 mai dernier, précise le communiqué. Aussi, un délai de 5 jours vient d'être accordé aux déserteurs de l'armée de regagner le rang de FARDC. Les commandants des unités FARDC œuvrant dans le secteur opérationnel sont donc appelés à créer des conditions favorables pour accueillir ceux qui sont disposés à servir la nation sous le drapeau. D'autre part, plusieurs sources dans le territoire de Massissi affirment que les mutins sont actuellement en débandade. Beaucoup ont pris la direction du parc national de Virunga. Les FARDC ne veulent pas encore donner le bilan de ces opérations militaires qui ont duré 4 jours. Ils disent toutefois que plus de 70 rebelles se sont rendus pendant la contre-offensive de l'armée. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Merci Gisèle Cage. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous êtes le numéro 1 de la province du Nord Kivu. Dites-nous comment se présente la situation sécuritaire aujourd'hui dans votre province.
Oui, je suis heureux, madame, d'être encore une fois invité. Il y a quelques jours, on parlait effectivement de cette situation sur votre radio. Mais la situation telle qu'elle se présente, elle va plus pas bien. Parce que moi-même, je viens d'effectuer une tournée à Karuba, à Sake, mais également à Mouchake, qui sont les grandes localités qui sont connues dans les médias comme étant des localités qui, jadis, étaient peut-être sous contrôle ou sous occupation, ces flancs. Mais j'ai même effectué ma tournée vers ces localités, j'ai raconté à la population, elle m'a fortement accueilli et elle s'est dit très satisfaite du retour effectif de la paix. Je suis passé à Mouchaki, qui est une localité particulièrement célèbre, le nombre de combats que là, j'y fais. Là également, les populations sont rentrées. Et bien évidemment, cette tournée que je vais effectuer ce lundi est consécutive à une autre tournée que j'ai effectuée le dimanche en République rwandaise, où je suis allé voir effectivement quelques réfugiés congolais qui sont allés dans les camps de Nkamira. Donc c'est pour vous dire que au stade actuel, l'évaluation de la situation sécuritaire est très bonne sur l'ensemble du territoire de Masisi. J'ai vu les forces armées de la République un peu partout, et à l'heure qu'il est Kiroliro et Kichanga, Bouiza et partout ailleurs, selon nos sources, toutes ces localités sont entièrement contrôlées par les forces loyalistes. Donc nous ne pouvons que nous réjouir du fait que au stade actuel, la paix est devenue dans les Masisi et les populations qui nous ont vus ce lundi à Mouchaki et à Karuba étaient très contentes que l'autorité elle-même se déplace pour venir voir exactement ce qui se passe. Cette population fait un appel à tous les déplacés internes et à tous les réfugiés qui sont partis à l'extérieur du pays de devoir entrer au bercail pour qu'ensemble on puisse continuer l'œuvre de la reconstruction de la province.
Alors, monsieur le gouverneur, si on a suspendu les opérations militaires, c'est parce que toutes les localités ont été récupérées aux mains des militaires qui ont déserté les FRDC, c'est ça?
Bon, les porte-parole de l'armée seraient mieux indiqués pour donner, je crois, les explications. Mais moi, je crois savoir que le fait pour les FRDC de contrôler les activités de tout l'espace, parce que hier il y avait des éléments FRDC, mais indisciplinés, qui voulaient ne plus respecter les ordres. Le fait qu'aujourd'hui, maintenant, ce sont les forces qui respectent les ordres, la hiérarchie, ces forces contrôlées dans ces localités. Et pour moi, je considère que le communiqué qui a été lancé par l'état-major est une ouverture pour devoir permettre effectivement ceux qui étaient coincés dans le parc, parce que l'objectif de toute façon, ce n'était quand même pas de tuer tous les éléments FRDC qui se retrouvent à des indisciplinés, même si je sais par ailleurs que c'est cela le souhait d'un certain nombre de gens. Je vois que l'État ne travaille pas comme ça, il a fait beaucoup de dépenses pour devoir investir dans ses forces armées, eh bien, il doit donner l'ouverture à ceux qui veulent bien sûr rentrer et devoir rentrer. Je vous annonce qu'au niveau de Kichanga, on a déjà enregistré 188 militaires qui se sont rendus. Et quand je suis allé à Mouchaki, après ma sortie, parce que j'ai fait un message en destination d'un certain nombre de militaires, après ma sortie de Mouchaki, on vient de m'appeler de là qu'il y a 54 éléments qui viennent de se rendre parce qu'ils ont compris qu'il y a un message de paix, ou bien la guerre ou les combats ne se justifient pas tel que cela leur était dit par leur chef d'antan. Donc je crois que cette occasion de 5 jours qui va s'épuiser dans, disons, le mercredi prochain, permettra à ce que l'on récupère tous les éléments FADC dans lesquels l'État congolais a investi. Et je crois que c'est nous, l'État congolais, qui gagnons lorsque nous récupérons nos éléments qui étaient distraits par un certain nombre de gens qui voulaient les amener dans une voie tout à fait illégale.
Alors, Valérie Sandy, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au Kivu.
Matumaini Franklin de Bukavu au Kiv. Tant que nos gouvernants continueront de vivre avec une auto-satisfaction sur la question de l'aide, il y aura encore beaucoup d'autres opérations militaires et qui ne conduiront nulle part. Comment expliquer qu'à moins de 2 mois, on a suspendu ces opérations militaires sans donner le moindre bilan? Pourquoi au moment où nous assistons encore à des défections au sein des FRDC et au combat sur le terrain, on suspend directement les opérations et pourtant on nous disait qu'il y a des personnes. Et on parlait de la mauvaise planification des opérations.
Monsieur le gouverneur.
Alors moi, je crois que j'ai déjà répondu à M. Matumaini qui intervient à partir de Bukavu. Eh bien, la suspension des opérations à Manileo ne doit pas être confondue à ce qui vient de se passer actuellement. Les opérations à Manileo ont été suspendues, mais ont été confiées à la 8e région militaire. Ici, il ne s'agit pas
d'une suspension définitive. C'est une occasion que les FRDC accordent à ces éléments qui se sont retrouvés dans les rangs de l'indiscipline de pouvoir revenir à la raison. Et la preuve, c'est qu'on a enregistré 188 rendus à Kichanga, et tout à l'heure, ce lundi donc, après mon retour de Mouchèque, on vient d'y enregistrer 54 rendus. Moi, je crois que c'est nous qui gagnons lorsque nous récupérons les éléments, comme je viens de le dire. Il n'est pas question d'une autosatisfaction, il n'est pas question de dire que nous nous réjouissons lorsque nous suspendons les opérations, parce que chacun voudrait que la paix soit effective sur l'ensemble de la province et que nous puissions passer à autre chose éternellement à la résolution des petits conflits dans cette partie de la République.
Mais qu'est-ce qui adviendrait, monsieur le gouverneur, si les autres militaires qui ont déserté l'armée ne revenaient pas? Les opérations vont reprendre après les 5 jours?
Mais exactement. Il y a un délai de 5 jours qui leur a été accordé. Et le communiqué est clair. Aussitôt que les 5 jours seront épuisés, eh bien, les FRDC vont devoir poursuivre la mission parce qu'elle n'est pas encore terminée. Et je dois vous dire que même à cet instant où il y a cette observation de 5 jours, il n'est pas clairement dit que si les FRDC sont attaqués dans une position, elles vont se laisser faire parce qu'il y a un communiqué qui l'a dit. Donc, les FRDC sont en train de se déployer partout, à retour comme dans les massifs, même si le communiqué a été lancé, pour s'assurer qu'aucune autre force ne puisse mettre sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Et là où elle va naître, les FRDC vont l'étouffer à la minute qui suit. Donc c'est là la compréhension de ce communiqué, que les gens ne pensent pas qu'on a abandonné les opérations, on ne fait plus de mouvements militaires. J'ai revu moi-même du terrain, j'ai constaté effectivement que les militaires sont en train de faire ce qui allait porter pour s'assurer qu'aucune force ne peut plus naître sur l'ensemble de la province du Nord Kivu.
Monsieur le gouverneur, mais nous apprenons qu'il y a des militaires qui protestent contre les ordres donné par leur hiérarchie de quitter le champ des batailles. C'est le cas à Ninova, Sake, Kiroche, Sacha. Est-ce que vous êtes au courant de cette
situation? Tous ces cas se retrouvent être parmi ceux que nous avons recensés comme des cas d'indiscipline. Et évidemment, les FRDC sont prêts à devoir traiter toutes les questions qui vont se poser ça et là, comme vous l'avez si bien signalé à Ninova. Mais des cas isolés ne peuvent pas remettre en cause l'ensemble du travail que les FRDC sont en train de battre sur le terrain. Je vous assure, moi qui viens de Mouchaki et de Karuba, j'ai salué le travail qui a été abattu par les FRDC. La population elle-même en témoigne. C'est pourquoi elle appelle à ce que tout le monde rentre en quittant la vie des refuges et la vie de camps internes.
Merci, monsieur le gouverneur. Nous vous gardons encore dans cette émission. Thomas Dakin-Witi, président de la société civile au Nord Kivu, dites-nous, vous de la société civile, comment vous jugez la situation sécuritaire dans la province aujourd'hui?
Merci, madame, pour la parole. Je salue son excellence, monsieur le gouverneur, en passant, puisqu'il est mon co-débatteur. La situation sécuritaire au niveau de la province, en dehors de tous les autres groupes armés résiduels, notamment Cheka, Awalikale, j'en viens dans la partie ouest de Massissi, la fontaine d'Alelubero, avec la présence des FDLR et des ADF Nalu. Nous pensons que, à la société civile, nous avons un premier devoir, c'est de présenter nos remerciements, nos félicitations aux vaillants combattants des FRDC qui ont fait preuve de bravoure dans le territoire de Massissi. Ça, c'est notre première intervention parce que tout le territoire de Massissi venait d'être occupé par cela qu'on appelle quelques éléments indisciplinés. Mais à notre avis, c'était vraiment des combattants qui voulaient faire la guerre contre le pays, puisqu'il y a des éléments qui étaient aussi Kivu, qui se sont déversés dans les massifs, il y a ceux qui étaient à Walikale, et donc la situation n'était pas si simple qu'on peut le croire. Ils ont commencé les affrontements au niveau de Ngungu. Les combattants FRDC les ont mis hors d'état de nuit. Ils ont pris la localité de Karuba, de Mouchaki, donc du côté de Mouchaki, Kichanga, partout là-bas. et les FARDC viennent de prouver ce dont ils sont capables en mettant fin à cette situation. Et donc, nous pensons que pour ce qui concerne la partie Massissi, ceux-là qui venaient de faire la coalition avec Cheka pour attaquer le chef-lieu du territoire de Walikale, jusqu'aujourd'hui, ils ont été maîtrisés. Peut-être ce que nous pouvons, à notre niveau, c'est de ne pas bien comprendre la suspension des opérations pour demander à des personnes qui ont pris les armes contre le pays, qui ont tourné les canons contre leurs collègues, leurs confrères, pour qu'on les appelle de rentrer dans la famille, alors que leur place serait, à notre avis, au niveau de la justice. Donc, je ne sais pas la stratégie qui est utilisée par les hauts commandements militaires de notre pays, puisqu'il y a des secrets militaires qui ne peuvent pas être révélés à la société civile pendant des situations difficiles, des situations de guerre. Mais à notre avis, nous pensons que peut-être, en dehors de quelques explications que nous pouvons avoir dans l'informel, nous pensons que suspendre les opérations, il y a ceux qui se rendent, on doit les recevoir et les orienter là où ils doivent aller. Sinon, ce n'est pas pour la première fois que certains militaires se rendent coupables de ce que nous qualifions d'action de traître. Et ils deviennent récidivistes, puisque en 1998, ils ont fait la même chose, en 2001-2004, ils ont fait la même chose, quelle que soit la bonne volonté de l'autorité du commandant suprême, son Excellence Joseph Kabila, qui a tout fait pour que la paix revienne et la paix durable, mais nous pensons qu'il y a vraiment des traîtres au sein des FARDC et nous, on croit que ce n'est pas le moment de le récupérer comme enfant de la famille, mais leur place serait peut-être, à notre avis, en prison.
Alors, M. Thomas Dakar Mouiti, vous nous confirmez aussi que les FARDC ont récupéré une grande partie des localités qui étaient sous contrôle des militaires qui ont déserté. Et vous êtes pour la suspension de ces opérations?
Tout à fait, nous confirmons que nos militaires ont fait un travail de qualité, un travail louable. Jusqu'aujourd'hui, madame, ce que nous pouvons vous donner comme preuve, c'est que certains déplacés qui étaient dans la ville de Goma, notamment les déplacés de Saké, quelques déplacés de la localité de Karouba et de Moussaki. D'ailleurs, le samedi passé, le préfet des études de l'Institut Moussaki a appelé les enfants à revenir pour reprendre les cours aujourd'hui lundi. Donc, nous pensons qu'il y a un travail de qualité qui a été effectué par les FARDC, mais nous ne nous inscrivons pas dans la logique de la suspension des opérations, étant donné que, j'ai dit bien, étant donné que nous n'avons pas des explications. J'ai dit, ça peut avoir été adopté par les hauts commandants militaires de manière stratégique, mais voyant ce que cela vient de créer au sein de notre armée, voyant ce que dit la loi, notamment la Constitution qui dit que lorsque quelqu'un prend les armes contre son propre pays, on les qualifie de traîtres. Et maintenant, ceux qui ont repris les armes contre notre pays, ils sont récidivistes, donc ce sont des traîtres à plusieurs fois. Et nous, on pense que suspendre les opérations pour les appeler à revenir dans la famille, donc dans les FARDC, à notre avis, nous ne sommes pas tellement d'accord. Nous, on croyait qu'il fallait les traquer, il fallait vraiment en finir une fois pour toutes. Et ceux-là qui se rendent, nous pensons que leur place, c'est de rentrer en prison pour subir la rigueur de la loi.
Alors, vous allez répondre brièvement à cette réaction de cet auditeur qui nous écrit depuis Béni au Nord Kivu. Il s'agit de Captain Bozon-Pierre qui dit ceci. S'il y a détection au sein des FARDC au Nord Kivu, c'est parce qu'il y a absence totale de l'autorité de l'État. Nous regrettons fortement que lorsque les FRDC évoluent bien sur terrain, le gouvernement les trahit toujours par un cessez-le-feu pour permettre à l'ennemi de s'organiser davantage. Comment vous réagissez à la réaction de cet auditeur qui nous écrit les plus bénis?
Effectivement, c'est le point de vue de la société civile. C'est notre point de vue, c'est de dire que, en tout cas, ce n'est pas le moment de dire qu'il faut suspendre les opérations. Je vais prouver cela d'ailleurs par un autre exemple. Il y a un certain colonel qu'on appelle Makenga. Makenga, c'est un colonel qui est venu du Sud Kivu, qui était jadis dans le Rutshuru et qui a fait aussi un certain nombre de gaffes. Mais avec les opérations Amani, il a été amené à aller gérer les FARDC au Sud Kivu. Mais lorsqu'il est arrivé ici à Goma, nous apprenons par des sources fiables, vérifiables, qu'il est rentré aussi en brousse du côté de Runyoni. Runyoni, c'est en fait une localité qui se trouve en limite dans les frontières avec le Rwanda et à quelques kilomètres de notre frontière avec l'Ouganda, la frontière de Bunagana. Celui-là, il fait rentrer et retrancher lui aussi pour aller commencer les opérations de ce côté-là. Et son Excellence, le gouverneur, nous informe que les amis, ou du moins ces brebis galaises, peuvent avoir pris la destination du parc. Et nous posons la question, dans les parcs, ils vivront où? Si ce n'est pas une manière de chercher à rejoindre Makenga et reprendre des forces et les opérations contre nos FARDC.
Merci, monsieur Thomas Moussi.
La vie, elle est sacrée, la vie des non-militaires, elle est sacrée, elle doit être protégée au même titre que ce que nous faisons à l'égard des civils. Donc,
merci, Thomas Moussi, nous vous gardons encore. Monsieur Mitz, s'il vous plaît, nous vous gardons encore dans cette émission. Le temps pour moi de passer la parole à Jason Stern, qui est analyste des questions liées à la sécurité. Il est directeur d'un projet de recherche dénommé Projet Ousalama. Jason Stern, vous avez suivi depuis quelques temps la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, l'état-major général décide de suspendre les opérations qui voulait traquer tous les militaires qui avaient déserté l'armée nationale. Comment vous réagissez à ce communiqué de l'état-major général du FRDC?
Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je salue mes collègues, M. Mitty et M. le gouverneur. Je pense qu'il faut distinguer entre la situation actuelle qui prévaut sur le terrain et les causes profondes de la violence de la crise à l'est du Congo. Je pense que la deuxième question que vous avez posée va se pencher beaucoup plus sur les causes profondes. Donc, si je pouvais seulement adresser les causes ou la situation actuelle sur le terrain, je renforce seulement ce que le gouverneur a dit et ce que M. Mitty a dit par rapport à la situation actuelle. Les FARDC, le gouvernement congolais, ils ont pu prendre contrôle de la plupart, si ce n'est pas des forces ici au Tchouro. Ils ont fait preuve d'un bon travail, je pense, sur le terrain, comme mes collègues l'ont dit, bien sûr. Mais au même temps, je pense qu'il faut être un peu inquiet par rapport à un autre communiqué qui vient d'être publié hier, juste après le communiqué des FARDC. Par le CNDP ou par un groupe au moins qui se dit du CNDP, qui ont dit qu'ils ont créé un nouveau mouvement, un nouveau courant plutôt au sein du CNDP qui s'appelle le mouvement du 23 mars. Et ils revendiquent justement qu'on revienne aux accords signés entre le gouvernement et le CNDP du mars 2009. Ce mouvement serait contrôlé ou serait sous le commandement du colonel Makenga. Et donc, c'est-à-dire que même si les FARDC ont repris contrôle du terrain, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus, et au Nord Kivu, et au Sud Kivu, la plupart, donc les chefs de ce groupe de militants ne sont pas encore rendus. Là, on peut citer le général Tagana, bien sûr, mais aussi le colonel Makenga, il y a le colonel Zimulinda, il y a le colonel Utoni, il y a le colonel Baudouin aussi. Donc, il faut se demander si ces gens-là, ils ne sont pas encore arrêtés, ils ne sont pas encore rendus, ils sont où et qu'est-ce qu'ils préparent. Et ces communiqués-là, je pense, indiquent qu'ils se préparent à un deuxième tour, si vous voulez, à une deuxième session de combat contre les FARDC. Donc, je pense qu'il faut louer le travail fait justement par les FARDC. J'espère qu'ils vont opérer à ce terrain en respectant les lois du pays. Toutefois, je pense qu'il faut rester un peu inquiet par rapport à la situation, à la solution finale de cette crise.
Alors, déjà, il y a certains observateurs qui estiment que ces opérations devraient continuer jusqu'à la traque de Bosco Ntaganda au lieu de les arrêter en chemin.
Il y a le problème, c'est que. Je pense dans un pays de droit, comme le président de la société l'a dit, en principe, toute personne qui se lève contre le gouvernement devrait être arrêtée comme ça. Et comme le président du pays a dit à maintes fois, on ne peut pas toujours rentrer dans une négociation éternelle avec des groupes armés. On peut pas, et c'est pour ça aussi qu'ils ont refusé d'ouvrir des négociations l'année passée avec des autres groupes armés rétractaires qui existent encore à la Congo. Je comprends ce sentiment. En même temps, je pense qu'il faut voir la réalité des choses. En 2009, pourquoi on a conclu un accord avec le CNDP? C'est parce qu'on s'est battu contre le CNDP pendant 5 ans. Depuis 2004, on s'est battu contre le CNDP sans avoir une vraie solution. Donc là, on a décidé de résoudre le problème et ensemble, avec le pays voisin, avec le Rwanda, on a trouvé une solution. La question que je pose, donc vous vous posez une question, je réponds en vous posant aussi une question. Est-ce que cette fois-ci, on saura résoudre le problème d'une façon militaire? Et si oui, là, je pense que c'est donc, comme tout autre pays, on pourra arrêter tous les maintenus militaires et les juger devant les tribunaux militaires. Mais s'il s'avère qu'il n'est pas possible, comme d'ailleurs en 2008-2009, de résoudre ce problème d'une façon militaire, là, il faut considérer au moins les options de négociation qui existent aussi.
Alors, vous allez rester en ligne, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Pierre Kalunga, dans la province du Katanga, précisément à Lubumbashi. Je voudrais juste demander quelles sont les causes qui font que les FARDC puissent quitter l'armée nationale en se reliant aux forces négatives à l'est de la République démocratique du Congo.
Pourquoi, selon vous, M. Jason, certains militaires des FARDC quittent l'armée nationale pour aller se rallier aux forces négatives? C'est la question que vous demande Pierre Kalunga de Lubumbashi.
Oui, c'est une très bonne question et ce n'est pas tout à fait facile de répondre à cette question. Je pense qu'il faut distinguer entre le début de la mutinerie et les évolutions qui ont eu lieu après. Au début, la mutinerie qui a commencé au fin mars, c'est une affaire personnelle, on pourrait dire. C'est une affaire de l'arrestation de Bosco Ntaganda. Au moins, on avait l'impression qu'il avait peur d'être arrêté pour son mandat d'arrêt de la CPI, de la Cour pénale internationale. Ce qui a amené à lui, personnellement, de prendre l'initiative et de faire des sections de l'armée nationale. Il a pu, ensemble avec lui, convaincre certains de ses collègues de faire cause commune avec lui. Il a fait des sections, effectivement, il y a des gens qui sont partis avec eux. Cette mutinerie, je pourrais qualifier plutôt comme une cause personnelle d'une personne. Bosco Ntaganda avec les gens qui sont proches ou loyaux à lui. Cette première mutinerie a échoué. Donc la plupart des gens qui ont quitté au début avril, ils ont rejoint l'armée nationale, ils se sont rendus, ils ont été capturés. Pour la plupart, c'était un échec. Et Bosco s'est rendu avec une petite quantité de personnes à Masisi. Mais à fur et à mesure que les autres soldats, officiers de CNDP, se sont rendus compte que ce n'est pas peut-être seulement un dossier qui concerne Bosco, mais cette situation pourrait amener au gouvernement du Kinshasa de démanteler les structures parallèles qui existent à l'Est du Congo, parce que le CNDP il maintenait des structures parallèles au sein de l'armée congolaise. Donc, dès qu'ils ont réalisé que ça pourrait mettre en danger leur pouvoir parallèle, ils ont réagi. Et je pense, au moins c'est ça ma conclusion à moi, que c'est ça qui a amené à cette deuxième vague, on pourrait dire, de déception, à cette deuxième force de déception, c'est là où le colonel Baudouin, le colonel Zimurinda, le colonel Makenga, ils ont fait déception, pour rejoindre Bosco. Là, ce n'est plus une question de votre Ségande, là, c'est une question de l'avenir du CNDP même à l'est du Congo, de l'avenir de ces structures parallèles. Au moins, c'est ça mon analyse.
Merci, Jason. Quelle est la situation des déplacés de ces affrontements dans la province du Nord Kivu? Les déplacés du camp Mugunga 3, près de Goma, vivent dans des conditions très difficiles. Femmes et enfants dorment sous un seul hangar. Beaucoup parmi eux sont malades suite à ces conditions de vie. Ces déplacés ont fui les affrontements dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. Patrick Maki de Virunga 19 et du haut de Goma a visité pour nous ce camp qui est son reportage.
1912 ménages des déplacés passent la nuit à la belle étoile. Selon l'administrateur du camp des déplacés Mugunga 3, quelques femmes et enfants sont privilégiés. Certains passent nuit sous un hangar, d'autres dans les salles de classe en bâche. Les hommes, eux, sont laissés à la merci des intempéries. Conséquence, beaucoup tombent déjà malades. Charlie Amunazo, vice-présidente des déplacés.
Les nouveaux déplacés vivent dans de mauvaises conditions. Ils sont nombreux. Les uns passent la nuit sur le hangar, les autres à la belle étoile. Six femmes enceintes ont accouché dans ces conditions. Elles manquent de vêtements et couches pour leurs bébés. Nous apprenons que notre armée reste la paix dans certaines localités, au lieu de vivre une telle situation, que les déplacés acceptent de retourner sur
le. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a donné à ces déplacés une aide constituée des vivres. Un terrain est disponibilisé afin de construire des logis à ces déplacés. Claude Rumazimissa, administrateur du camp.
Nous sommes avec les amis des ACR, les autres amis de la première agence. Nous sommes en train de leur montrer le terrain pour mettre là les hangars, pour en construire, pour aussi accueillir autant de ménages.
Signalons que durant les deux derniers jours, de nouveaux déplacés ne sont pas enregistrés dans les camps Mugunga 3. Goma, Patrick Maki, BDRFM pour Radio Okapi.
Monsieur le gouverneur, Sénéan Paloukou, vous avez visité ce camp de Mugunga. C'est vrai que le gouvernement provincial a donné des vivres à ces déplacés, mais ils vivent dans des mauvaises conditions. Il y en a qui sont malades et d'autres déplacés qui ne sont même pas répertoriés. Votre réaction?
Oui, merci madame. Avant de réagir, je voudrais d'abord donner une précision de détail. C'est que si les femmes de ces observent aujourd'hui et toujours pour permettre à ce que leurs collègues reviennent du Makou et de ces partis, ce n'est pas pour ouvrir la voie à la négociation. Il faudrait que la communauté, aussi bien nationale qu'internationale, retienne qu'il ne s'agit pas de nouvelles négociations qu'il faut engager avec les insurgés ou les indisciplinés ou les mutins. Donc, c'est une précision de taille que je voudrais placer pour que les gens ne pensent pas qu'il y ait une nouvelle négociation ouverte.
Mais qui va faire rapport quand même l'armée.
Par rapport à la question des déplacés. Oui, madame.
Allez-y, répondez à la question des déplacés, monsieur le gouverneur.
Oui, par rapport à la question des déplacés, je suis heureux d'annoncer que le gouvernement provincial a donné 20 tonnes de vivres, mais la politique, ce n'est pas de permettre à ce que les gens s'installent dans les camps. Les 20 tonnes que nous avons données aux déplacés de Mugunga, c'est pour effectivement qu'elles puissent faire face à des situations de précarité dans lesquelles elles vivent. Mais aujourd'hui, lorsque je revenais de Mushaki et de Karuba, j'ai été heureux de constater qu'il y a une file presque indienne constituée de beaucoup de déplacés qui rentraient chez eux à pied. Et je me suis rendu compte que les gens ont compris le message de paix dans les zones d'origine. Et donc, au stade actuel, les statistiques ne sont plus les mêmes comme cela a été présenté par votre journaliste. Je crois que demain après demain, les camps vont se vider littéralement parce que dans les zones de retour, à Mushaki, à Karuba, à Kiroliwe, à Kindi, à Kabaki et partout ailleurs, la paix est revenue.
Monsieur le gouverneur, mais quelles sont les garanties données à la population quand on sait que les rebelles sont maintenant dans les parcs de Virunga et à Rutshuru?
Je ne sais pas vous donner tout le secret militaire actuellement, mais je dois rassurer la population de tous les endroits que je viens d'évoquer ici, qu'elles peuvent librement rentrer chez elles, parce que les FARDC ont adopté une stratégie unique à son genre pour devoir maîtriser tous ces militaires qui se retrouveraient dans le parc.
Merci.
Le parc se trouve loin des localités que je venais de citer tout à l'heure. Donc, il y a une stratégie bien spécifique pour ces militaires qui sont étrangers dans le parc.
Merci, monsieur le gouverneur, monsieur Thomas Mouti. Votre réaction par rapport à la situation des déplacés des guerres, un chiffre quand même très élevé.
Je pense qu'il faut commencer par présenter des félicitations, des remerciements au gouvernement provincial pour l'assistance humanitaire qui a été préconisée de manière prompte, donc avec célérité, contrairement aux humanitaires qui prennent des temps pour dire il faut d'abord étudier, il faut commencer par l'identification et tout, et ça prend des mois et des mois. Je pense que le gouvernement provincial vient de poser un geste louable, que d'ailleurs nous disons merci au gouverneur qui est avec nous dans cette émission. Deuxième chose, c'est que, comme venait de le dire son Excellence, Monsieur le Gouverneur, la population, je venais d'ailleurs de le dire encore une fois, les déplacés commencent à rentrer petit à petit dans leur village de provenance. Ce que nous saluons également, surtout cette population qui a le courage de ne pas rester les mains tendues dans les camps des déplacés. Ça prouve à suffisance combien la population est en train de comprendre qu'il faut aller travailler et ne pas rester attentif aux aides qui sont en train de se préparer. Voilà un peu ce que nous connaissons, mais il y a d'autres déplacés. Ce n'est pas seulement les déplacés qui sont allés du côté de Goma, qui constituent les déplacés dans le Massissi. Il y a d'autres qui ont pris la destination de Massissi. Massissi Centre, d'autres ont pris la destination du côté de Rubaya. Nous pensons que le gouverneur qui a fait un geste, puisque ces déplacés n'ont pas seulement besoin de la nourriture. En fuyant leur localité, ils ont tout perdu. Il y a ceux qui n'ont plus de couverture, il y a ceux qui ont perdu les maisons, il y a des maisons qui ont été détruites. Et donc, nous pensons que le gouverneur ferait mieux de se rendre dans certaines localités pour faire davantage, pour continuer à poser des gestes humanitaires, ou du moins
vous a compris, il va aller dans ces camps de réfugiés pour faire un peu plus de concerns. Nous passons aux solutions. Quelles sont les solutions pour une paix durable dans cette province du Nord Kivu? Quelles pourraient être les solutions?
Merci. Oui, merci beaucoup. Bon, je ne veux pas être trop pessimiste. Je pense que j'espère qu'on est dans la bonne voie. La première chose qu'il faut signaler, c'est que ce n'est pas depuis aujourd'hui ni hier qu'il y a des problèmes, la violence en Kivu, c'est depuis au moins 1993 qu'on a connu la violence et la guerre en Kivu. Je ne pense pas que la solution durable va être trouvée aujourd'hui ou demain. C'est une longue phase de construction, je pense, qui sera nécessaire. Je pense qu'il faut cibler deux causes, et peut-être en parlant de ces deux causes de la violence, je pourrais aussi parler des possibles solutions. La première cause, c'est l'absence étatique. Je pense que la faiblesse de l'État a fait en sorte que les milices, les groupes armés puissent émerger à l'est du Congo, y inclut le ex-CNDP, et je pense qu'à fur et à mesure que le gouvernement puisse reconstruire l'État, et surtout créer des forces de sécurité efficaces, responsables, professionnelles, je pense que il va être plus possible pour les autres groupes de pouvoir confronter, s'insurger contre l'État. Ça c'est la première chose, donc là je mets l'accent sur la construction des institutions étatiques. La deuxième chose, c'est une chose un peu difficile, mais la deuxième chose, c'est le fait qu'il y a des groupes à l'est du Congo, comme au Rwanda, qui, depuis un certain temps, pensent que pour sauvegarder leurs intérêts, et ça peut être des intérêts économiques, sécuritaires, politiques, il leur faut la protection militaire. Il faut avoir un groupe armé à part qui puisse garantir leurs intérêts. C'est ainsi qu'on a vu l'émergence du CDP entre 2004 et 2006. C'est ainsi que même avant cela, il y avait des autres groupes armés au Nord Kivu, à l'est du Congo. Alors, il faudra pouvoir convaincre ces gens justement qu'ils n'ont pas besoin de groupes armés pour garantir leurs intérêts. Alors, si on a un État impartial, un État professionnel, la solution est, est facile. On peut avoir confiance dans l'appareil étatique, dans les institutions étatiques. Mais ça va prendre du temps. Et je pense qu'en ce temps, justement, il faudra probablement pouvoir convaincre ces gens à démobiliser les groupes armés, ne plus faire confiance dans la solution, l'option militaire. Qu'est-ce qu'il faut pour cela? Je pense que...
On a plus beaucoup de temps, il nous reste 4 minutes pour mettre en l'émission.
Exactement. Donc, je pense qu'il faut la pression politique sur les acteurs, qu'ils ne sont pas constructifs, bien qu'ils galèrent. Il faut penser à la décentralisation, ce qui est déjà prévu dans la Constitution, et il faut créer un appareil administratif local qui soit responsable et dans lequel le peuple peut avoir confiance.
Merci, Devonster. Je viens parler au monsieur le gouverneur. Vos propositions, vos solutions pour une paix durable dans votre province, dans la province du Nord Kivu.
Oui, d'abord, s'agissant des questions militaires ou de sécurité, je crois que la première solution, c'est de lutter contre l'impunité, c'est-à-dire l'arrestation de tous les officiers supérieurs et généraux qui s'adonnent à des pratiques malsaines qui rendent la vie presque invivable dans cette province. Il faut donc qu'on lutte contre l'impunité, qu'on arrête tous ces militaires-là qui s'adonnent à ce genre d'actes. Deuxième chose, il faut que les enfants du Nord Kivu qui ont choisi de rester dans l'armée comprennent qu'ils ne doivent pas prendre toute la République en otage. Troisième piste de solution, les ethnies ou les communautés ethniques du Nord Kivu doivent comprendre qu'ils ne doivent pas instrumentaliser leurs enfants qui sont au sein de l'armée. Et la quatrième solution, il faudrait qu'on puisse procéder à la mutation de tous les officiers, de tous les éléments originaires de cette province vers d'autres provinces. Et la dernière solution que j'ai toujours évoquée dans toutes les émissions, il faut le casernement des militaires pour que les militaires cessent de vaquer ça et là, de se retrouver dans la rue, mais d'être bien cantonnés avec leurs enfants, avec leurs épouses, qui doivent accéder à la scolarité dans les casernes, qui doivent accéder aux soins dans les casernes, et non pas errer ça et là. Je crois que si ces quatre pistes sont explorées, on peut arriver à mettre un terme à ce cycle de violence qui n'a que trop duré et qui verse des milliers de la population régulièrement sur la route.
Merci, monsieur le gouverneur. Monsieur Mouiti, hormis les propositions évoquées par le gouverneur et des gens seuls, est-ce que vous avez d'autres propositions pour une paix dans une paix durable dans la province du Nord Kivu? Monsieur Mouiti? Monsieur Mouiti? La réalisation me signale que nous l'avons perdu. Alors on va conclure cette émission. On commence par vous, monsieur Dizon Stern. Un mot en guise de conclusion.
Allô, Nicolas?
Oui, je disais, nous allons conclure l'émission. Un mot, un dernier mot en guise de conclusion.
Oui. Je pense qu'il faut louer les efforts conclus jusqu'à maintenant, mais il ne faut pas être tranquille parce que je pense, au moins j'ai l'impression que l'affaire n'est pas encore terminée. Je pense qu'il faudra que toutes les forces politiques et diplomatiques et au Congo et dans la région puissent se focaliser pour mettre fin à la violence pour que les voies politiques pour résoudre les problèmes soient privilégiées.
Merci, monsieur le gouverneur. Je suis votre conclusion.
Oui, je vais déroger aux usages, c'est-à-dire de saluer en fin d'émission d'abord les co-débatteurs, mais également dire que les forces armées de la République sont en train de se comporter très très efficacement dans la province du Nord Kivu, et nous rassurons la population que nous suivons de très près ce qui se passe et que la paix est en train de revenir dans les territoires de Masisi et que désormais les réfugiés qui sont à l'extérieur du pays, aussi bien les déplacés internes, peuvent commencer à rentrer chez eux parce que nous avons effectué une tournée dans les Masisi et la paix y règne. Très prochainement, nous serons à Runyoni, une localité qui est souvent connue comme l'un des grands bastions, mais qui est aujourd'hui sous contrôle des FARDC.
Et à tous ces habitants de Masisi et à tous ces habitants de Masisi, Rutshuru, vous leur dites quoi, monsieur le gouverneur, en swahili?
À tous ces habitants de Masisi, Rutshuru, tunawaelezea ya kwamba amani narudi pole na tuweze kupana mchango wetu na msaada kwa majeshi ya Kongo ili tuweze kudumisha amani, na wale majambazi ambao wanaleta ukorofi ndani ya province yetu ya North Kivu tuweze kuwaweka mbali ili tuweze kufanya kazi ya mlimo, kazi ya ufugo na kazi ya mashamba kwa kila wakati.
Merci monsieur le gouverneur pour la fine émission. Merci à toute l'équipe de dialogue entre Congolais Guy Mathieu et Alain Hong, Samuel Katcha sous la supervision de Ben Kabamba. Merci à Guy Manzangu qui est à la technique au micro, Céline Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Prédiffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Bonne soirée chez vous et bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Thank you.